RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Julien et bonjour à tous.
Dans ce journal, les instances européennes vont observer de très près les deux scrutins.
Deux scrutins présidentiels dont les résultats vont avoir des conséquences concrètes sur les politiques européennes. Les Polonais votent pour le premier tour de la présidentielle. La question, c'est de savoir si le président élu aura la même couleur politique que le gouvernement libéral. Et puis en Roumanie, second tour d'une présidentielle marquée par la poussée de l'extrême droite. Le candidat d'extrême droite, George Simion, fait face au maire de Bucarest, le centriste Nico Chourdan. Donald Trump dit vouloir parler avec Vladimir Poutine demain par téléphone pour mettre fin à ce qu'il qualifie de bain de sang en Ukraine. Dans ce journal aussi, le FBI qui évoque une attaque terroriste, une bombe a explosé hier devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Microsoft sur la défensive, les outils d'intelligence artificielle de l'entreprise américaine sont accusés de servir à des frappes contre des civils à Gaza. Les précisions dans ce journal. Et puis Godard, Truffaut et Belmondo ressuscités à Cannes par le réalisateur américain Richard Linklater. Nous serons sur la croisette à la fin de ce journal.
C'est l'un des scrutins les plus importants pour la Pologne depuis la chute du communisme.
Les Polonais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle, scrutin qui va déterminer l'action du gouvernement libéral de Donald Tusk, sorti vainqueur des législatives il y a un an et demi. Le premier tour devrait sans surprise se jouer entre le maire de Varsovie, le libéral Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki, le candidat du PiS, le parti ultra-conservateur. Daniel Wallot, vous êtes en direct de Varsovie, bonjour.
Bonjour.
Daniel, le vote a débuté il y a tout juste une heure et vous vous trouvez dans l'un de ces bureaux de vote du centre de Varsovie.
Oui, un bureau de vote un peu particulier puisqu'il se trouve dans les murs du Palais de la Culture de Varsovie, un gratte-ciel offert dans les années 50 par Staline à la Pologne qui était alors sous l'orbite soviétique. La Pologne est désormais sortie de l'orbite russe, mais le palais est toujours là et c'est donc dans ce gratte-ciel très stalinien que nous avons suivi ce matin le début de ce vote. Une élection présidentielle cruciale pour la Pologne, vous l'avez dit, même si le pouvoir exécutif en Pologne est pour l'essentiel détenu par le Premier ministre et non pas par le président, mais ce président a un rôle important pour les questions de défense, pour les affaires étrangères et surtout, il a un droit de veto et il peut freiner le travail du Parlement. Or, depuis 2 ans et la victoire du camp libéral aux législatives, eh bien, le président sortant, Andrzej Duda, a fait précisément cela. Il a entravé l'action du gouvernement libéral et pro-européen de Donald Tusk. Et
Daniel, le camp libéral, justement, espère une victoire dans ce scrutin et ce n'est pas forcément joué d'avance.
Oui, le candidat libéral, le maire de Varsovie, est à peu près sûr d'arriver en tête à l'issue de ce premier tour. Il est crédité d'environ 30% des suffrages et il espère en plus un ralliement de la gauche au second tour pour battre celui qui devrait a priori arriver en deuxième position ce soir, à savoir le candidat conservateur du PiS, Karol Nawrocki, qui lui est crédité de 25% des voix. Karol Nawrocki, qui était inconnu du grand public avant ces élections et qui traîne derrière lui plusieurs scandales liés notamment à ses biens immobiliers. Le PiS espère malgré tout conserver la présidence. La conséquence serait pour Donald Tusk et le camp libéral, dans ce cas de figure, un coup d'arrêt tout simplement à leurs ambitions de réforme pour la Pologne.
Daniel Wallot, envoyé spécial d'RFI à Varsovie. On suivra également le score de l'extrême droite polonaise et de son candidat Sławomir Mentzen qui pourrait, selon son résultat, faire figure de faiseur de roi dans ce scrutin.
L'extrême droite aux portes du pouvoir en Roumanie.
Et les Roumains votent depuis 2 heures maintenant pour départager George Simion, le candidat d'extrême droite, arrivé largement en tête du premier tour, au maire de Bucarest, le centriste Nico Chourdan. Une bataille qui s'annonce très serrée, 5 mois après la spectaculaire annulation d'un premier scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe. George Simion, fervent critique de l'Union européenne, tout comme un certain Viktor Orban, le premier ministre hongrois, soutient ouvertement le candidat d'extrême droite. Et cela ne plaît pas du tout à l'importante minorité hongroise de Roumanie. Précision, Florence Labruyère.
C'est un coup de poignard dans le dos des Hongrois de Roumanie. C'est ainsi qu'un magazine qualifie le discours de Viktor Orban. Le Premier ministre a en effet déclaré en public qu'il approuvait pleinement les déclarations de George Simion sur la nécessité d'une Europe chrétienne. Ces propos ont choqué les dirigeants du parti politique des Hongrois de Roumanie. Son président, Unor Kelemen, a répliqué : « George Simion n'est pas notre ami, compromis, il est contre les Hongrois. Simion n'est pas la solution, il est le problème. L'élite de la minorité hongroise déteste Georgi Simion, car ce candidat d'extrême droite s'est fait connaître en 2019 en vandalisant un cimetière hongrois en Roumanie. Et Simion a multiplié les déclarations de haine contre les Hongrois. La formation politique des Hongrois de Roumanie, ainsi que plusieurs intellectuels, appellent à voter pour le maire de Bucarest, un politicien modéré. Mais selon la presse hongroise, une partie des Hongrois de Roumanie choisira tout de même Georgi Simion, car ils sont attirés par ce candidat qui pourfend les élites et la globalisation et promet le changement. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Georgi Simion, souvent qualifié de Donald Trump roumain, il critique régulièrement le soutien de son pays à l'Ukraine.
Et cette élection présidentielle en Roumanie, on la suit aujourd'hui et demain sur place. RFI Matin pose ses valises à Bucarest. Demain matin, édition spéciale avec Andréane Mellard et ses invités. À la une, l'Ukraine, Jeanne, qui sera au menu d'un coup de téléphone.
Et ce sera demain, selon Donald Trump, qui affirme qu'il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Donald Trump qui dit vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine au lendemain, vendredi, des premières discussions russo-ukrainiennes depuis 2022. Précision avec Loubna Naki.
C'est en lettres capitales sur son réseau social Truth Social que Donald Trump, comme à son habitude, a annoncé la nouvelle. Un coup de téléphone est prévu entre lui et Vladimir Poutine lundi matin à 10h pour, je cite, « arrêter le bain de sang », a écrit Donald Trump. Il affirmait cette semaine qu'il n'y aurait pas d'avancée sur ce dossier, à moins, je cite, d'un face-à-face avec son homologue russe. Le président américain dit que dans la foulée, lundi, il s'entretiendra également avec Volodymyr Zelensky ainsi qu'avec d'autres dirigeants européens. Un programme chargé, alors que les négociations organisées cette semaine en Turquie entre Ukrainiens et Russes n'ont rien donné, à part un accord pour un échange de prisonniers. Donald Trump espère obtenir un cessez-le-feu, un appel relayé par son chef de la diplomatie, Marco Rubio. Mais un tel accord semble pour le moment difficile, étant donné les différends entre Moscou et Kiev, et surtout la Russie a jusqu'ici refusé tout cessez-le-feu en dépit des concessions offertes ou des coups de pression. Une situation qui doit forcément agacer Donald Trump, lui qui s'était vanté de pouvoir mettre fin à cette guerre dès son arrivée à la Maison-Blanche. Loubna Naki, New York, RFI.
Les États-Unis où une explosion a fait un mort devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée en Californie à Palm Springs, à l'est de Los Angeles. L'explosion est déjà qualifiée de terroriste par le FBI. Les détails dans le journal de 9h.
RFI 9h07 à Jérusalem et Gaza. La pression internationale s'accentue sur Benjamin Netanyahou.
Alors que le gouvernement a ordonné l'intensification de son offensive à Gaza, la défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 33 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, dans des frappes survenues cette nuit. Il faut arrêter le massacre à Gaza, déclare le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, s'est lui entretenu pour la deuxième fois en trois jours avec Benjamin Netanyahou. Et dans ce contexte, le géant de l'informatique Microsoft a de nouveau été obligé de se défendre en début d'année. Plusieurs enquêtes de presse avaient en effet révélé les liens croissants entre l'armée israélienne et l'entreprise. Concrètement, les outils d'intelligence artificielle de Microsoft sont accusés de servir à des frappes contre des civils à Gaza ou encore au Liban. Nathanaël Vitran.
Microsoft assure que ses liens avec le ministère de la Défense israélien sont purement commerciaux. Avec des mots choisis, l'entreprise assure à la fois n'avoir trouvé aucune preuve que ces outils d'intelligence artificielle ou de cloud computing aient été utilisés pour cibler des personnes à Gaza, tout en reconnaissant n'avoir aucune visibilité sur la manière dont ces consommateurs utilisent ces logiciels. Une défense à minima donc, alors qu'Associated Press et Le Guardian ont publié des enquêtes fouillées montrant l'utilisation croissante après les attaques terroristes du 7 octobre de l'IA par l'armée israélienne pour des attaques de drones ciblé. Concrètement, pour la première fois peut-être dans un conflit armé, ce sont les machines qui décident, seules ou presque, qui vit et qui meurt. Or, les machines se trompent aussi, menant à la mort de civils. Après une guerre qui a fait plus de 53 000 morts côté palestinien à Gaza, plusieurs employés de Microsoft s'en sont émus. Honte sur vous, vous êtes des profiteurs de guerre, arrêtez d'utiliser l'IA pour contribuer au génocide, hurle ainsi cet employé venu perturber le mois dernier les célébrations autour des 50 ans de Microsoft. Dans son discours d'introduction, Satya Nadella, le PDG, a eu cette phrase pour évoquer le tournant de Microsoft vers l'IA. Notre futur ne sera pas défini par ce que nous aurons fait, mais par ce que nous aurons permis aux autres de faire. Fin de citation. En cumulé, les ingénieurs de Microsoft auraient fourni plus de 20 000 heures d'assistance aux militaires militaires israéliens dans le cadre d'un contrat à 10 millions de dollars.
Nathanaël Vitran. En France à présent, des membres de la diaspora malienne se sont mobilisés hier à Paris contre le pouvoir en place à Bamako. Une trentaine de personnes réunies devant l'ambassade du Mali pour dénoncer la dissolution des partis politiques et plus généralement la répression des opposants au régime. Lou Ekal a recueilli l'indignation de ces Maliens installés en France.
J'ai la famille là-bas, j'ai des amis. Ils se sentent menacés. Il y en a qui ont peur de discuter avec toi au téléphone, mais c'est très grave quand même. C'est grave.
Ça ne va pas au Mali. Tout le monde a peur. On a mis de la colle dans nos bouches. On n'a plus le droit de parler. Même si on a envie d'aller chez nous, on ne peut pas, on a peur. Parce que quand tu parles, on te prend, on te met en prison. C'est dur.
Il y avait une femme qu'on appelle Madame Sidibé Oroquette Doumbia qui a vraiment mené une lutte à l'encontre de la vie chère au Mali. La dame elle a été aussi incarcérée il y a au moins 23 mois. Il a osé parler, il a osé dire ce qu'il ne veut pas. Cela veut dire que tous les Maliens, aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'exprimer, on est là. Voilà.
On lance un appel aux autorités maliennes qui sont les dirigeants de cette transition. Il faut qu'ils essayent d'organiser les élections et de restaurer la démocratie dans ce pays qui est le Mali.
À propos recueilli par Lou Ekal.
Toujours en France, c'est une nouvelle étape dans l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie.
Un texte aussi sensible qu'attendu. Hier, les députés ont adopté l'article 2 qui instaure un droit à l'aide à mourir dans une version qui prévoit que les patients devront s'auto-administrer la substance létale s'ils en ont la capacité. Un vote sur l'ensemble du texte relatif au droit à l'aide à mourir est prévu le 27 mai prochain.
Enfin, direction Cannes avec les plus grands noms du cinéma français ressuscités sur la croisette.
On retrouve tout de suite Isabelle Chenu en direct de Cannes. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes l'une de nos envoyées spéciales au Festival de Cannes. Dans Nouvelle Vague en compétition, l'Américain Richard Linklater redonne vie au tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard et déclare Isabelle sa flamme au cinéma français à la fin des années 50.
Oui, Nouvelle Vague est un hommage enjoué et charmant, tourné en noir et blanc et en français à cette révolution du cinéma qui a eu lieu en France autour d'un groupe d'audacieux comme Claude Chabrol, François Truffaut ou Jacques Rivette, entre autres. Au moment où débute le film, Jean-Luc Godard n'est qu'un jeune critique des cahiers du cinéma qui rêve de réaliser son premier film envieux de son collègue François Truffaut qui connaît déjà la consécration avec les 400 coups. Richard Linklater, figure du cinéma indépendant américain, ne pense pas pouvoir faire de films avant de voir ceux de la Nouvelle Vague. La légèreté de leur dispositif, leur liberté lui laissa entrevoir que ce serait possible. Il ressuscite donc à l'écran avec beaucoup d'humour toute la galaxie de ces insurgés du cinéma avec des acteurs très ressemblants et inconnus. Linklater raconte la fabrique du film À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo débutant et l'américaine Jean Seberg. Tourné en 1959 en 20 jours de manière décousue, sans script, sans direction d'acteur, sans son réel, le film dirigé de façon très fantasque par Jean-Luc Godard deviendra une pièce maîtresse du 7e art.
Merci Isabelle Chenu en direct de Cannes avec les moyens techniques de Tiffany Mentin.
Et le journal signé Jeanne Bartoli. Merci beaucoup Jeanne. À tout à l'heure. RFI Matin continue, 8h13 à Paris. Tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, une belle histoire pour clôturer la saison de Ligue 1. Alexandre Lacazette s'en va sur un dernier doublé.
Pour passer la barre des 200 buts avec son club formateur, le général dont le contrat avec Lyon s'achève et qui a offert un dernier succès à l'OL 2-0 face à Angers. Ses 200 et 201e buts personnels et pour son équipe une 6e place synonyme d'Europe et de Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Lacazette sorti ovationné par tout le stade. Et forcément ému.
Clairement, on pouvait pas mieux rêver. Déjà l'accueil dès le début du match. Forcément, ça fait une semaine que les émotions sont là pour moi. Mais vraiment, le public a été incroyable avec moi aujourd'hui depuis l'échauffement. J'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux aussi, ça m'a touché. Et ouais, avec une victoire, deux buts, on passe la barre des 200. Donc, on pouvait pas mieux rêver.
Alexandre Lacazette chez nos confrères de DAZN, la Ligue 1 qui s'achève sur un large succès de Nice, 6-0 sur Brest et une qualification pour le tour préliminaire de Ligue des Champions pour les Aiglons. En bas de tableau, Saint-Etienne descend en Ligue 2 après sa défaite à domicile 3-2 face à Toulouse. Reims termine barragiste avec un troisième revers de suite face à Lille 2-1 et jouera son maintien en barrage face à Metz.
Ailleurs en Europe, c'est la fin de 164 ans de disette pour Crystal Palace.
Fondé en 1861 à Londres, le doyen des clubs de première ligue a remporté son tout premier trophée majeur. Victoire 1-0 en finale de la Coupe d'Angleterre aux dépens de Manchester City. Un titre que l'Autrichien Oliver Glasner, l'entraîneur de Crystal Palace, veut d'abord dédier à ses supporters.
Pour moi, la plus grande chose, ce n'est pas juste de soulever un trophée. Le vrai succès, c'est d'avoir pu offrir un moment inoubliable à des dizaines de milliers de nos supporters, à ces gens du sud de Londres. Peut-être qu'ils traversent des moments difficiles, qu'ils ont des soucis chez eux. Mais là, pendant quelques heures, quelques jours, ils ont pu tout oublier, juste être heureux, profiter, faire la fête. Et ça, franchement, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire en tant que sportif. On l'a fait pour eux, pour tous ces gens. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui ont contribué à ça, peuvent être super fiers. Fiers d'eux, fiers de l'équipe, fiers du club, parce qu'au final, c'est ça le plus beau.
Et de l'autre côté, saison blanche pour Manchester City, la toute première depuis 2017.
En basket, la NBA, match décisif ce soir à Oklahoma City.
OKC affronte les Denver Nuggets avec une seule certitude, le vainqueur ira en finale de conférence. Dernier acte donc dans le duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, deux des principaux candidats au titre de MVP. OKC Denver, première entre deux, 19h30, temps universel.
Et puis de la boxe et une soirée victorieuse pour Tony Yoka.
Le Français l'a emporté au point sur décision unanime face au Russe Arslan Yaliev. 10 rounds très intenses que le poids lourd, champion olympique 2016, a dans l'ensemble dominé. Après trois défaites retentissantes, Tony Yoka est heureux d'avoir réussi son retour au bercail.
C'était long, c'était très dur, parce que comme je l'ai dit, c'est un très bon adversaire. Je sors d'un très long tunnel où ça a été dur. Et forcément, on a des moments de doute, on n'est plus intouchable psychologiquement. Donc le fait d'avoir ce public qui m'a porté à partir du sixième round, ça a été compliqué et ils m'ont vraiment aidé. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire, c'est de repartir vers l'avant. J'avais enchaîné trois défaites. Là, j'ai enchaîné trois victoires, deux à Londres et une ici. Donc voilà, on va continuer à aller de l'avant.
Tony Yoka avec Baptiste Leduc.
Et Antoine Grenier pour le Journal des Sports. Merci beaucoup. Et dans ligne de défense, ce matin, l'un des enseignements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le conflit a montré le rôle primordial de l'artillerie pour frapper loin de la ligne de front, faute de maîtriser le ciel. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Retour d'expérience, l'armée française fait le constat qu'elle doit rapidement se doter de systèmes d'artillerie à longue portée, car les systèmes qui équipent les forces seront bientôt obsolètes. C'est ce que pointe une mission d'information menée par l'Assemblée nationale.
Un trou capacitaire est en effet à redoubler. Douter, disent les députés. Jusqu'à présent, Julien, les feux dans la profondeur, eh bien, c'était l'apanage de l'armée de l'air. Grâce à leurs missiles de croisière, les chasseurs-bombardiers avaient pour mission d'attaquer les cibles stratégiques à plusieurs centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies, mais la démocratisation des défenses antiaériennes fait planer un véritable doute sur les chances de l'aviation à pouvoir franchir les bulles de déni d'accès. Pour s'affranchir de ces barrières, l'artillerie roquette est donc redevenue centrale, souligne Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
On a besoin à la fois d'une puissance de feu dans la profondeur qui ne soit pas aérienne, mais en plus de ça, on a besoin d'une puissance de feu qui soit en fait beaucoup plus cheap, ou du moins qui a des effets de neutralisation qui sont plus vastes. Tout notre modèle quand même depuis la guerre froide, c'est comment on arrête des chars russes. On passe là à 3-4 cibles bien identifiées, à une centaine de fantassins qui courent dans tous les sens. Maintenant, on le voit en plus sur des motos, etc. Jamais on a le volume de feu pour traiter ça. Et donc c'est pour ça en fait qu'on revient à une logique roquette.
Armé par le 1er régiment d'artillerie de Belfort, les 9 derniers systèmes LRU pour lance-roquettes unitaires arriveront en fin de vie en 2027. Et ce trou capacitaire, Turgis et Gaillard l'a identifié il y a 2 ans. En mode agile, cette entreprise de taille intermédiaire vient donc proposer un système appelé Foudre, c'est-à-dire un châssis, Julien, un panier de guidage et un système de conduite de tir capable de recevoir tous les missiles existants de 75 à 1000 km de portée. L'entreprise s'est déjà fait remarquer avec la ROC, un prototype de drone de reconnaissance et d'attaque longue distance, rappelle Fanny Turgis, sa présidente.
On a une capacité à effectivement fabriquer rapidement les choses, mais ça c'est inhérent à la configuration de notre société. On a des capacités qui sont duales, du personnel civil qui peut aller vers le militaire. Et nous, on était déjà prêts il y a quelques années à cette économie de guerre. On est à l'avant-garde du combat connecté, donc en présentant à la fois notre drone à roc et également ce lance-roquette qui est sorti très rapidement, on veut montrer que on a la capacité de pouvoir aller faire de la reconnaissance avec un système aérien, mais on a également développé la capacité de faire de la frappe dans la profondeur et toutes ces plateformes peuvent communiquer entre elles.
Franck, deux consortiums, Safran MBDA d'un côté et Thales Ariane Group de l'autre, développent également des projets de systèmes d'artillerie roquettes.
Mais les premiers tirs de démonstration n'auront lieu que l'an prochain. Et si l'un des projets n'aboutit pas à un coût raisonnable, les armées françaises seront obligées d'acheter ce matériel sur étagère et à l'étranger, alerte le député Jean-Louis Thiriot.
Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que aujourd'hui, on a un time to market, un moment de mise sur le marché qui est pas bon, puisque la plupart des pays européens ont déjà passé des commandes, que ce soit d'HIMARS, de Pulse ou de les Polonais qui ont acheté coréens. Ça veut dire que les chances de succès commercial sont limitées. Donc, faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est stratégique, c'est d'être capable de produire de la roquette sur le territoire national, éventuellement sous licence. Qu'est-ce qui l'est moins, c'est le châssis panier conduite de tir, à partir du moment où elle est interopérable, puisque ça, il n'y a aucun saut technologique dedans.
Reste, Julien, que la roquette n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'artillerie longue portée, c'est ce que rappelle Vincent Touré, et le chercheur de souligner qu'en Ukraine, les drones d'attaque longue distance ont prouvé leur efficacité, et ce, à moindre coût.
Ligne de défense, merci Franck Alexandre.
RFI Matin.
Ils vont de nouveau se mobiliser aujourd'hui dans un archipel visité par 1,5 million de personnes. Rien qu'au mois de mars de cette année, les habitants des îles Canaries manifestent ce dimanche, comme souvent, contre le surtourisme qui bat des records. Et dans notre tour du monde des correspondants ce matin, on parle de ce phénomène et de ses effets. Dégradation, pollution, manque de respect envers les locaux. Nombreux sont les pays qui tentent de réguler ce secteur pourtant très lucratif. C'est le cas du Kenya, une destination très prisée pour ses parcs nationaux remplis d'animaux sauvages et ses plages au bord de l'océan Indien. En 2024, le pays a accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Le tourisme est un secteur clé de l'économie, en plein rebond depuis la fin de la pandémie de Covid. Mais il est lourd de conséquences sur l'environnement et la vie sauvage, Alban Tiroir.
Deux guépards qui chassent une antilope, puis en quelques secondes, une vingtaine de véhicules qui les encerclent à quelques mètres seulement en klaxonnant. Cette vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux en 2022, montre une scène qui n'est pas inhabituelle dans le célèbre Masai Mara, dans le sud-ouest du Kenya. Le parc attire un grand nombre de visiteurs. Plus de 154 ont déjà été dénombrés à un même endroit lors des grandes migrations animales en juillet et août, selon les autorités. Or, ce tourisme n'est pas sans conséquences. Les fortes concentrations de véhicules peuvent être source de stress pour l'environnement et les animaux. Le développement d'infrastructures modifie aussi leur habitat, les obligeant à changer de route migratoire et engendrant parfois des conflits avec les communautés alentours. Pour y faire face, les autorités ont augmenté le prix d'entrée du Masai Mara en 2024. Les non-résidents payent désormais $200 en saison haute pour 12 heures de visite, contre $80 pour 24 heures auparavant. Une mesure décriée par certains acteurs touristiques qui craignent, eux, une baisse de la fréquentation du parc. Et le soulignent, les revenus liés au tourisme permettent aussi une meilleure conservation de la vie sauvage.
Alban Tiroir au Kenya, un autre pays qui s'est érigé en destination phare du tourisme mondial, la Thaïlande, a accueilli en 2024 plus de 35 millions de visiteurs et espère atteindre les 40 millions cette année. Mais face aux multiples incidents impliquant des touristes étrangers, les autorités entendent revoir leur système d'exemption de visa, Valentin Sébron.
Depuis l'été dernier, les citoyens de 93 pays dont la France peuvent séjourner en Thaïlande sans visa pour 60 jours. Objectif de ce programme d'opérer une économie à la traîne en encourageant le tourisme. Mais il pourrait bientôt prendre fin. Les autorités thaïlandaises s'apprêtent en effet à réduire de moitié, soit de 60 à 30 jours, la durée des séjours touristiques sans visa. Une décision qui vise à limiter les abus de ce système, car l'industrie touristique dénonce le nombre croissant de ressortissants étrangers exemptés de visa, exerçant illégalement des commerces liés au tourisme, restaurants ou hôtels et pratiquant parfois des activités illicites. À cela s'ajoute le comportement répréhensible de certains. Vols, conduite imprudente, violence et agression. Les affaires impliquant des touristes font couler beaucoup d'encre ici. Dernière histoire en date qui a enflammé la toile car elle a été filmée, celle d'une touriste israélienne refusant d'enlever ses chaussures dans un restaurant local avant de lâcher au propriétaire sur un ton condescendant, je cite, « C'est mon argent qui construit ton pays ».
Valentin Sébron à Bangkok. Et puis en Espagne, c'est notamment la ville de Barcelone qui tente depuis des années de remédier à son problème de surtourisme. Après la lutte active contre les appartements illégaux, la fermeture d'environ 10 000 logements, la mairie a franchi un pas en décidant récemment de supprimer les appartements touristiques légaux cette fois, mais ça ne passe pas pour le secteur, Alice Gazangel.
C'est un bras de fer légal qui s'est amorcé ici. En mars, la Cour constitutionnelle a donné raison à la mairie de Barcelone en jugeant que cette annonce ne violait pas le droit à la propriété privée. Mais les propriétaires de ces près de 10 000 appartements touristiques, qui devraient donc cesser leur activité en 2028, n'ont pas dit leur dernier mot et prévoient d'autres recours, notamment une demande de compensation de près de 5 milliards d'euros. En attendant, cette mesure est plutôt bien vue par les habitants ici. Il faut dire que des graffitis demandant aux touristes de rentrer chez eux fleurissent sur les murs de tous les quartiers et des mobilisations sont régulièrement organisées. La dernière, fin avril, un groupe de militants a stoppé un bus touristique pistolet à eau en main face à la Sagrada Familia. Les activistes de plusieurs villes du sud de l'Europe se sont d'ailleurs réunis ici il y a quelques jours et ont annoncé une nouvelle manifestation le 15 juin prochain contre ce tourisme de masse.
Élise Gazangel à Barcelone et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. Bientôt 6h30 en temps universel. Et bientôt l'heure du journal, mais d'abord votre rendez-vous du dimanche à la découverte des secrets du vivant. C'est dans ta nature, nous parle cette semaine des céphalopodes. Les poulpes, les seiches, les calamars, ils sont les invertébrés les plus intelligents au monde, Florent Guignard.
C'est une expérience réalisée par le commandant Cousteau qui a révolutionné la compréhension des céphalopodes, cette famille de mollusques à laquelle appartient le poulpe. Un crabe est enfermé dans un bocal. La suite avec Laure Bono Ponticelli, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
Que fait le poulpe ? Non seulement il voit qu'il y a un crabe, très bonne vision, il arrive à comprendre qu'il y a un couvercle, et il arrive à trouver les moyens avec ses bras munis de ventouses pour ouvrir le bocal, c'est-à-dire tourner. Donc quand les scientifiques se sont aperçus de ça, ils se sont dit « Ah là là, mais en fait les bêtes, elles ont un cerveau qui pouvait éventuellement correspondre au nôtre, et comme nous on est intelligents, on s'est dit, ils sont donc intelligents. »
Oui, les poulpes ou les pieuvres, c'est pareil, sont les invertébrés les plus intelligents, mais non, ils n'ont pas 9 cerveaux, c'est une idée reçue.
Elles ont un gros cerveau, et puis elles ont des espèces de petits amas de cellules nerveuses à la base de chacun des bras. Et il semblerait qu'il y ait malgré tout une certaine autonomie de ces mini-centrales nerveuses qui pourraient commander les bras indépendamment du cerveau.
C'est aussi ce cerveau qui commande l'incroyable capacité des poulpes à changer de texture et de couleur pour se fondre dans le paysage en 1/1000 de seconde, Laure Bono Ponticelli.
Ils ont dans leur peau un très grand nombre de cellules qui sont responsables de ces changements. Et quand il y a un ordre qui est donné par le cerveau, à la vitesse de l'influx nerveux, si rapide qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Tout ça est interconnecté et fait que l'animal va complètement disparaître aux yeux des prédateurs. Et puis aux yeux des proies aussi.
Jamais Madame Irma n'avait imaginé qu'un poulpe lui ferait de la concurrence.
Vous vous souvenez sûrement de Paul le Poulpe, champion des pronostics en foot dans son aquarium. Il choisissait presque toujours le drapeau du futur vainqueur, mais ici, pas d'intelligence ni de compétences sportives. Non, c'était juste le hasard. Les poulpes ne voient pas les couleurs.
Je suis bizarre et marrant.
Tu es le poulpe bluffant.
Je suis bizarre et marrant.
Tu es bizarre et marrant.
De toi, ça te...
La question de la semaine.
L'hygiène est-elle le propre de l'homme ?
Ben non, c'est ce qu'on vient encore de découvrir chez l'un de nos cousins les plus proches, le chimpanzé. La toilette intime n'est pas l'apanage des humains. Des scientifiques ont observé en Ouganda des chimpanzés s'essuyer les parties génitales avec une feuille après un rapport sexuel. Et après la grosse commission, les chimpanzés s'essuient les fesses. Parce que comme le dit le proverbe, quand le singe veut monter au cocotier, il faut qu'il ait le cul propre.
Voilà, vous le savez, Florent Guignard pour C'est dans ta nature. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce dimanche matin sur RFI. Vous faites bien, le journal est à suivre dans un peu plus d'une minute. À tout de suite.
RFI à Paris, 89 FM. Franceville, 104 FM.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Dans les médias, le traitement éditorial de l'information passe trop souvent par le prisme de l'émotion au détriment de la raison. C'est ce qu'explique Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique et professeure à l'IRIS dans son livre « La stratégie de l'émotion » qui vient de reparaître. Elle est mon invitée tout à l'heure à 11h10 temps universel sur RFI dans l'atelier des médias.
Géopolitique.
La Roumanie, entre l'Est et l'Ouest, navigue entre héritage post-communiste et ambitions européennes. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2007, elle a profondément transformé ses institutions, son économie et sa diplomatie. À l'heure de l'élection présidentielle, comment s'affirme-t-elle dans un environnement régional instable ? Réponse avec les invités de Marie-France Chatin dans Géopolitique, tout à l'heure à 17h10 TU.
RFI.